Et vous écoutez France Culture. C'est terrible, reprit le docteur d'une voix blanche. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer depuis hier, mais je croirais bien que le diable vient de jeter son dévolu sur notre chère petite ville. Patrick Delperdange. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit donc ce soir le romancier Patrick Delperdange à l'occasion de L'éternité n'est pas pour nous. Son dernier roman paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox, une émission que nous poursuivrons avec des chroniques d'ouvrages signées Pagan Montellier, Lucas D'Andrea et James Cromley. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre, cercle noir ce soir et nous vous invitons à entrer dans le cercle noir pour y rencontrer Patrick Delperdange, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut se permettre, Patrick Delperdange, de, je vais pas dire de délirer, mais de songer à propos de votre nom Delperdange, à l'ange Anne Perdel, l'ange a perdu ses ailes.
Je n'en suis pas responsable, mais il est un peu fait pour ça, oui, pourquoi pas. Bien sûr, on peut fantasmer.
Donc on va fantasmer à propos de votre nom, et surtout de votre roman, donc L'éternité n'est pas pour nous, paru chez Aurélien Masson, Les Arènes, dans la collection Equinox. Merci d'être là, puisque ça n'a pas été facile d'y être, là.
Voilà, la situation.
Vous venez de Bruxelles.
On va pas tout de suite parler de la situation en France, mais bon, il y a des petites choses qu'il y a à régler, quoi.
Oui, bah, écoutez, espérons que le règlement sera le plus vite possible trouvé. Bonsoir, Élise Lépine.
Bonsoir, François Angelier.
Tout va bien ?
Tout va très bien, merci.
Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ? Eh bien, ce week-end, on peut me voir dans Piste Noire sur Polar Plus, la chaîne Polar de Canal Plus, et je vais parler d'une auteure que j'ai beaucoup aimée, Valérie Allam, aux éditions du Caïman, pour Quatre morts et un papillon.
Très bien, on peut donner des horaires aussi, parce que c'est bien
alors,
beau.
Alors, c'est le vendredi soir à 22h30, c'est la première diffusion, et puis c'est rediffusé un peu tout au long du week-end, samedi à midi, etc. Mmh. Donc, on a de fortes chances de tomber sur l'émission, ou sur un très bon polar, en allumant la télé sur Polar Plus.
Très bien, donc ayons l'œil pour voir Élise sur... Donc ça s'appelle
Ça s'appelle Piste Noire.
Piste Noire.
Présenté Fabrice Drouel, notre confrère de France Inter.
C'est le Cercle Noir, Hubert Prolongeau.
Bonjour François, très bien, merci.
Bienvenue dans le Cercle Noir. Vous, quelle est votre actualité? De quel lointain horizon revenez-vous?
Justement, mais j'espère qu'elle ne sera pas prophétique. J'ai un livre de reportage qui ressort chez Artaud Poche, qui s'appelait Amazonie, une mort programmée, point d'interrogation, que j'ai écrit il y a quelques années. Et voilà, et je me demande si ce point d'interrogation va rester un point d'interrogation quand on voit les promesses écologiques du président Bolsonaro qui font quand même frémir quant au destin de ce qu'on appelle, à raison plus qu'à tort, le poumon du monde.
Bien, ben voilà un début un peu grave, un peu sombre, mais après tout, c'est bien normal en ce samedi sur Mauvais genre. Est-ce que Céline, vous allez nous apporter des raisons d'espérer, de sourire?
Des rayons de soleil?
Bah oui, quand même.
Mais bien sûr, avec ma chronique comme toujours, vous allez voir un joli monde qui va pouvoir s'étaler sous vos yeux ébahis, sous cloche aussi, oui, j'espère bien.
Ouvrons donc cette encyclopédie pratique des mauvais genres.
Fait un arbre à tête, donc le petit personnage, il a eu la tête coupée, donc il la tient dans un petit plateau. Bon, ça, je l'ai vu bien sûr dans des tableaux, hein, c'est les saints, il y a un nom, mais j'ai oublié, céphalophores, je crois, qui portent leur tête. Et derrière lui, il y a un arbre avec tout un tas de têtes qui poussent, et donc, ça, j'aime bien cette idée d'ailleurs. Qu'il puisse choisir la tête qui lui convient. Alors, il y a des têtes d'enfants, il y a des têtes de femmes, d'hommes, de vieux, il y a même une tête de chien ou une tête de mort. Et donc, il peut choisir, en fait, s'il a envie d'être mort, vieux, femme, enfant, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que moi, j'ai souvent envie de me couper la tête quand ce qu'il y a dedans ne me plaît pas. Et j'aimerais bien pouvoir juste prendre la tête de quelqu'un d'autre, même comme ça, même quand je vais bien, juste pour changer en fait, être dans la tête de quelqu'un d'autre. Et donc c'est vrai que je crois que c'est pour ça que j'adore couper les têtes et en mettre d'autres. J'aime bien cette idée.
«
Les arbres à souhait de Maïssa Toulet sont miraculeux. Ils permettent la réalisation d'un désir. Vous êtes solitaire et malheureux de l'être. L'arbre placé derrière vous vous propose une multitude de chaussures à mettre à votre pied. Vous êtes un chien. L'arbre regorge d'os suspendus à ses branches. Vous êtes Adam et Ève. La pomme est là, accessible, rouge et bien mûre. Maïssa Toulet est une artiste qui crée des univers à partir d'assemblages, de collages, de moulages. Certains sont mis sous cloche, comme la série des arbres à souhait, d'autres sont disposés dans de petites armoires ou même accrochés au mur, posés sur des étagères. Des mondes organisés autour de thèmes, le marin, les paysages, les objets végétalisés, les lunettes, pour voir autrement une multitude d'univers qui se télescopent et dialoguent lorsque l'on entre dans l'atelier de Maïssa Toulet.
Je ne suis pas très, très organisée. En fait, je crois que je ne peux travailler que dans le plus grand désordre. J'essaye parfois de ranger, ça me fait beaucoup de bien. Et au bout de 2 jours, c'est à nouveau pas possible. Donc maintenant, je l'assume. Bon, parfois, je casse des choses à cause de ça. Mais c'est pas grave, parce que parfois, ça me donne de nouvelles idées. Quelqu'un qui a perdu un membre, ben, je vais le remplacer par autre chose. Par exemple, une pince de crabe, puisque je suis en ce moment dans l'ambiance maritime. Mais si par exemple la tête se casse, je vais la remplacer par autre chose, une autre tête d'animal ou autre. Si par exemple j'ai un coquillage double et que je veux mettre des mains à l'intérieur qui sortent et que je casse une des 2 valves, je vais m'en servir pour mettre une oreille par exemple, comme là. Et je me dis, le coquillage, en le mettant de manière verticale, c'est vrai qu'il ressemble à une oreille, donc c'est marrant de mettre une autre oreille à l'intérieur. Voilà, ça c'est un exemple de choses qui peuvent finalement s'avérer intéressantes avec une casse.
Qu'est-ce qu'on voit comme personnage ?
J'ai beaucoup de personnages qui viennent de gâteaux de mariage, mais j'en ai aussi qui sont seuls, parce que aux États-Unis, ils font aussi les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur. Ce qui pour moi est parfait parce que ça me fait plein de figurines. J'en ai aussi de maisons de poupées. J'ai des têtes de poupées, j'ai des petits bustes en biscuits. Ça, ceux-là, je les adore. C'est des petits hommes préhistoriques. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. J'ai utilisé déjà les singes, mais pas les hommes préhistoriques. Mais c'est vrai que ça, c'est une série que j'aimerais beaucoup faire sur les origines de l'humanité.
Et vous en faites quoi de tous ces personnages ?
Déjà, j'aime les avoir tous autour de moi. J'aime l'idée que ça grouille. Quand j'étais gamine, j'avais découvert l'artiste Joseph Cornel, qui fait des assemblages, et j'avais vu une photo de son atelier, et ça m'avait transcendé. Je m'étais dit, mais je veux pareil plus tard. Et pourtant, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à faire des assemblages, mais j'étais fascinée par ça, par le fait qu'il ait plein de petits objets, les tiroirs plein de petits objets, en fait l'accumulation, je crois, me fascine, quoi. Donc voilà, et là maintenant j'avoue que j'aime avoir tous ces objets, j'ai l'impression que je suis pas seule en fait. L'idée du peintre avec sa toile blanche ou même l'écrivain avec sa page blanche, c'est, je sais pas comment ils font, quoi. Moi j'ai aucune idée, alors que tous les petits objets, en fait, que j'ai, ils me racontent des histoires, ils appellent ça. Et j'en prends 3, et déjà, ça commence à me raconter des choses. Donc, en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de rien inventer moi-même, mais ce sont les objets qui créent à ma place, en fait.
Pour découvrir l'univers de l'artiste Maïssa Toulet, rendez-vous sur son site internet www.maïssatoulet.fr ou mieux encore sur les réseaux sociaux où elle est beaucoup plus active. Vous y trouverez par exemple toutes les informations pour vous rendre à la journée portes ouvertes de son atelier. C'est au 89 rue de Charonne à Paris. Ce sera samedi prochain. L'occasion de découvrir son lieu de création et aussi sa nouvelle œuvre en cours, une ville en ruine dans des dégradés de gris que seul le vert de quelques végétaux envahissants vient casser. Alors pour le moment, cette ville sur une grande table, mais elle est en cours de construction. Elle sera un jour immense, car comme me l'a dit Maïssa Toulet, à force de vivre, on accumule beaucoup de souvenirs, alors autant en faire quelque chose et créer une ville souvenir composée de strates de mémoire à l'image d'un site archéologique.
Merci Céline pour cette entrée. Maïs Atoulé, Patrick Delperdange, réaction sur cet univers sous cloche.
Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que sur un de ces arbres sous cloche, justement, il y a une petite tête de mort et tout à coup, ça m'a fait penser à ma couverture.
Il n'y a aussi pas de tête de mort sur votre couverture.
Si, si, mais elle est bien cachée.
C'est pas vrai. Attendez, si, si. Alors là. Ça va nous faire ah oui, si, je l'ai vu. Je viens de la voir. Bien absolument. Voilà. Oui, elle est extrêmement bien cachée. Elle est en bas à droite, pour le dire. Et vous êtes justement, cette thématique des villes en ruines, des ruines artificielles vous intéresse?
Ah, il y a des choses superbes et fascinantes dans les ruines, bien sûr. J'ai visité Pompéi, par exemple, et Ostie. Il est clair qu'on rentre dans une taverne, on a l'impression que les gens viennent de la quitter et viennent de terminer leur verre de, je ne sais d'ailleurs pas de quoi, de vin romain de l'époque. Et puis ça, il y a une ambiance, on a l'impression vraiment que des gens ont circulé dans cette ville, à part les millions de touristes qui circulent chaque année évidemment, mais qu'il y a encore des gens qui vivent là. C'est assez fascinant en effet, oui.
Donc surprendre le quotidien des fantômes un peu, c'est ça.
On pourrait dire ça. Ouais. Surtout que évidemment à Pompéi il reste la forme de
la
ces
carcasse.
Gens. Voilà les formes de ces gens qui ont été saisis en pleine vie.
Céline.
Oui, alors si vous aimez Pompéi, vraiment, je vous conseille d'aller dans l'atelier de Maïs Atoulé, parce que cette ville, c'est comme si vous étiez une sorte de dieu tout puissant. Voilà. Au-dessus, vous survolez cette ville miniature qui est faite que de tout petits monuments, de bribes de choses un peu écroulées, et c'est vraiment propice à l'imaginaire.
Ah,
vous vous envolez.
Alors, ceux qui veulent retrouver Céline Duchesnay en dehors de Mauvais Gens et en dehors des expositions, il y en a une nouvelle qui se prépare à Paris, au musée de la chasse.
Oui, ce sera un peu plus tard, mais ce sera une déambulation sonore,
voilà,
comme on l'avait faite avec
Laurent Polleray. Et vous pouvez retrouver Céline dans la revue Gonza, numéro de décembre-janvier 2019, puisqu'en effet, vous y avez donné un entretien titré « Chercheuse de Mauvais Gens ». Et là, il y a un condensé de tout ce que vous avez pu connaître, expérimenter, ressentir au fil de ces années.
Oui, oui, vous allez comprendre pourquoi lorsque je fais des interviews, je ne souris absolument jamais. C'est ce que j'explique en gros dans cette interview. Peut-être parce que j'ai Catherine Robbe-Grillet en tête qui m'avait dit que le SM, c'était quelque chose qui n'était pas du tout fun et qu'il ne fallait jamais rire des bizarreries des uns et des autres. Oui. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai essayé de développer tout au long de cette interview.
Mais vous n'avez
pas
un beau sourire.
Oui, mais pas pour se moquer.
Ni sourire, ni goutte de sang. Vous êtes en très bonne compagnie puisqu'on trouve Jean-Michel Jarre, le Velvet Underground, Simon Liberati, un vampirologue. Il y a même Dominique Paturel qu'on salue, qui fait son apparition dans le dernier numéro de Gonza. Et je signale également la revue Hobbies, qui est une revue d'ailleurs qui se partage un peu entre un esprit gonzaï et un esprit schnock. C'est une revue essentiellement basée sur les hobbies, sur les distractions, sur les plaisirs, un peu sur les artistes du dimanche et sur certaines activités. Donc il y a un grand article dans le numéro 4 sur l'amour à la barre, le pole dance, et puis un grand article passionnant sur la fièvre du carnaval de Dunkerque. Dans un autre numéro, on trouve quelque chose sur la braderie de Lille, puisqu'on est dans le nord, on va continuer à y rester avec vous, Patrick Delperdange. Et puis un article alors tout à fait intéressant, parce que le reportage photographique qu'il illustre est très bien réalisé sur le steampunk dans le numéro 6 de la revue Hobbies. Tous les renseignements sur le site de Mauvais Gens. On parlera plus tard et plus longuement du numéro 3 de la revue Carbone consacré aux Amazones. Et on sait qu'à Mauvais Gens, les Amazones, on aime. Voilà, j'aurais aimé vous donner le nom du groupe et du morceau, mais Laurent Polleret, qui est malicieux à trouver, il n'y a que des S, des X, des H, des... Donc demandez-lui comment ça s'écrit, il vous répondra sur le site de Mauvais Gens. Patrick Delperdange, on l'a découvert plus directement, plus récemment avec une série noire, Si tous les dieux nous abandonnent, qui était déjà un programme clairement exprimé, et ça continue, l'éternité n'est pas pour nous, car si tous les dieux nous abandonnent, l'éternité ne sera pas pour nous. Néanmoins, vous existez bel et bien, il n'y a qu'à voir votre très abondante bibliographie, on va en savoir un peu plus sur Patrick avec Élise Lépine.
Et voilà, alors moi je suis très contente de pouvoir vous rencontrer, vous poser des questions, puisque j'avais adoré Si tous les dieux nous abandonnent. D'ailleurs j'en avais parlé ici, j'en avais dit plus grand bien, je crois. Et vous avez beaucoup publié, c'était loin d'être votre premier texte, hein. Vous avez publié pour la jeunesse notamment, on lisait tout à l'heure au moins 20 de romans jeunesse. On a vu votre nom du côté de la bande dessinée aussi avec plusieurs scénarios, là on est du côté de 10 de scénarios de BD chez Casterman. Et puis plusieurs romans en blanche ou en noir pour un public de lecteurs adultes. Alors moi j'avais noté Chant des gorges,
ouais.
En 2005, ouais. Qui avait eu le prix Victor Rossel prestigieux et qui est en gros l'itinéraire d'un enfant sauvage en 7 tableaux, qui est entre la noirceur et la lumière, hein, comme beaucoup de vos textes. Et puis je cite un titre en particulier qui m'a bien fait rire, Patrick Delperdange est un sale type, je l'ai pas lu, oui. En 2014.
On va être fixé.
Alors ça, on va le savoir.
J'ai préféré prendre le devant.
Voilà, et puis vous avez publié Coup de froid chez Actes Sud, et puis cette entrée dans la série noire en 2016, donc avec Si tous les dieux nous abandonnent, et donc L'éternité n'est pas pour nous, donc chez Equinox, aux arrêts dans la collection Equinox. Puis c'est une longue histoire que vous avez avec le noir, puisque vous avez eu le prix Simenon en 1987.
Oui, ça remonte à très très longtemps, c'était donc au siècle passé, et donc le prix Simenon, c'était organisé par le centre Simenon à Liège, qui avait obtenu les archives de Simenon, et qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas utilisé certaines notes qu'il avait prises, comme d'habitude, sur une enveloppe jaune, puisque Simenon était un peu fétichiste. Il prenait des notes sur une enveloppe jaune.
Il prenait des notes que sur une enveloppe jaune.
Exactement.
Un jour, il en a manqué, il a tout fait pour retrouver le fabricant.
Mais non seulement ça, mais il s'est enfermé donc avec cette enveloppe jaune et ses notes, et pour la première fois de sa vie, il est resté sec. Il a donc pas réussi à écrire. Et en plus donc d'être fétichiste, il était radical, Simenon, et il a décidé d'arrêter d'écrire des romans après ça. Et donc le centre Simenon s'est retrouvé en dépouillant les archives avec une enveloppe où il y avait des notes prises par Simenon qui n'avaient pas été utilisées. Et donc ils ont fait des facsimilés de l'enveloppe, et chaque personne qui voulait participer au concours Simenon recevait cette enveloppe et devait écrire un roman à partir de ça. Et donc j'ai participé à ce roman, donc sur manuscrit, anonyme en fait, et j'ai remporté le prix donc en 1987. Mais ne parlons pas de la date, ça commence vraiment à peser. Oui.
Mais alors, avoir un prix Simenon, est-ce à dire qu'on a écrit comme Simenon? Enfin, est-ce qu'il y a une tentative un petit peu de pastiche?
Alors, il fallait pas faire du pastiche, il fallait pas écrire à la Simenon, il fallait simplement utiliser les notes qu'il avait prises, qui se passaient ici dans un quartier à Paris, autour de l'Odéon, des choses comme ça, avec des personnages, mais un peu esquissés, tout simplement esquissés.
Pas loin des arènes. Hubert Prolongeau.
L'ombre de Simenon est à l'écrasante pour un auteur de polar belge. Est-ce qu'on est obligé de se déterminer pour ou contre, je sais pas, tous les cinéastes suédois vous expliquent qu'il faut être pour ou contre Bergman, mais il faut se déterminer. Est-ce que c'est pareil avec Simenon?
J'ai heureusement commencé à écrire dans le domaine noir, dans le polar, avant de me rendre compte de la stature de Simenon. Donc ça m'a pas frustré, ça m'a pas empêché d'essayer des choses et de me lancer dans ce domaine, parce que je n'ai découvert l'importance de Simenon, à part le son nom, mais l'importance littéraire vraiment, qu'il y a quelques années. Je ne lis Simenon, quand j'ai remporté le prix et quand j'ai écrit ce roman à partir de ses notes, je n'avais jamais lu la moindre ligne de Simenon. Et donc, ce qui prouve bien qu'il ne fallait pas faire un pastiche. Donc. Mais donc, je n'ai découvert l'œuvre de Simenon en elle-même qu'il y a 2 ou 3 ans. Et là, je suis absolument fasciné par ce qu'il arrive avec des moyens, enfin, justement, des moyens qu'il dissimule, qu'il cache, qu'il arrive à faire passer, à rendre invisible. Mais cette espèce de comédie humaine qu'il a réussi à constituer au XXe siècle avec une aisance. Ça a l'air évident, tellement simple d'écrire un Simenon, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à écrire. D'ailleurs, Gide ne s'y est pas trompé, qui est tout de suite a compris l'importance de cet écrivain, et qu'il y a un échange de lettres entre Simenon et Gide qui est fascinante.
Ouais, Simenon n'aurait pas fait de polar, sans doute il aurait eu le Nobel un jour. Et voilà.
Oui, bien sûr.
Un auteur de genre accédera à ce genre de récompense.
Des choses changent. Je veux dire, il y a un auteur de roman noir qui vient d'obtenir le prix Goncourt, là, quand même.
Mais avec un roman qui n'est pas noir.
Voilà, justement.
Pierre Lemaitre avait déjà fait pareil. Il faut en sortir. Ouais. Et Simenon est dans la Pléiade parce qu'il a écrit autre chose que des Maigret.
Mm-hmm. Mais alors, Patrick Delperdon, ce chassé-croisé entre tout un tas de genres différents, littérature pour jeunesse, théâtre, roman noir, dramatique radio, puisque par deux fois, dans les années écoulées, on a pu vous entendre sur France Culture. Exactement. Je le signale, et on peut toujours vous entendre sur France Culture. Roman noir, roman moins noir, roman gris. Est-ce que c'est une volonté de trouver quelque chose dans tous les genres possibles, ou est-ce que c'est justement le plaisir, et ben après tout, d'aller cavalcader dans toutes les régions envisageables?
C'est sûrement, en tout cas, une envie de ne pas s'ennuyer en écrivant, et c'est d'essayer d'autres choses, d'essayer de se lancer dans des domaines inexplorés encore. Donc, par exemple, la littérature jeunesse, c'est aussi sur une sollicitation d'un éditeur qui m'a dit je vois ce que tu écris, est-ce que ça t'intéresserait de publier dans une collection jeunesse, ce que j'avais encore donc jamais fait. Et mon but étant d'être écrivain, comme mon but l'est resté en fait, une sollicitation d'un éditeur installé qui vous dit ma collection est ouverte, ça se refuse assez difficilement. Et donc voilà, les choses arrivent de cette manière. Peut-être que
pareil pour la bande dessiné.
Exactement.
Parce que vous avez quand même, Élise, on voit que Patrick Delperdange a œuvré abondamment la série Star.
La série McNamara.
Voilà. Donc, oui, c'est aussi une sollicitation d'un éditeur de bande dessinée. Les choses se sont déroulées de la même manière. Est-ce que ça t'intéresserait de nous proposer un scénario de techno-thriller? Le techno-thriller, pourquoi pas, allons-y, essayons. Je veux dire, mon but est de raconter des histoires, mon but est de procurer du plaisir à des lecteurs, mon but est de faire, je veux dire, transmettre des sentiments, des sensations.
Il y a des jeux d'influence chez vous, d'un genre à l'autre, de la BD au roman noir, est-ce que vous avez appris des choses dans les uns que vous utilisez dans les autres?
C'est difficile de passer d'un domaine à l'autre, c'est pas difficile de passer d'un domaine à l'autre, mais c'est difficile de tirer des leçons d'un domaine pour les appliquer à un autre. Ce sont vraiment des domaines très différents. La bande dessinée, par exemple, il faut réfléchir en images, et avec ces images, essayer de les décrire de manière telle, avec des mots là, pour le coup, pour transmettre ça à un dessinateur, parce que je ne suis pas dessinateur, heureusement. Je me contente de m'occuper des scénarios, et donc je dois faire naître d'abord des images dans la tête du dessinateur, avec des mots, qui viennent, eux, d'images qui sont nées dans la mienne. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que la littérature, ce sont des mots, là, tout simplement. Les images, elles viennent peut-être, je l'espère aussi, dans l'esprit d'un lecteur, si tout à coup mes mots lui font naître des scènes, des ambiances, dans son esprit. Mais l'image n'est pas première. En littérature, je pense que les mots sont là d'abord, ils sont premiers.
Élise Lépine.
Moi, j'ai l'impression, pour parler du noir, que quand vous écrivez comme ça, dans cette veine très noire, comme l'éternité n'est pas pour nous, si tous les dieux nous abandonnent, que vous éteignez la lumière en littérature pour mieux la faire revenir ou la voir apparaître. C'est-à-dire que dans vos romans noirs, il y a toujours, finalement, au milieu de la bestialité, l'émergence de l'humanité ou de la lumière.
Je l'espère. J'espère qu'il reste encore une petite étincelle. J'espère que je n'ai pas éteint toutes les lumières.
En tout cas, vous la capturez, vous la faites surgir, je trouve, dans vos romans.
Oui, je pense que quand on voit un Caravage, quand on regarde la peinture du Caravage, on se rend compte que s'il y a une telle lumière qui jaillit de la peinture, c'est parce que y a la noirceur de la scène, la noirceur du fond, par exemple. Donc, est-ce que j'aimerais qu'on voit mes romans peut-être comme des peintures du Caravage? Ça serait extraordinaire.
Eh bien, on va voir si la lumière réussit à percer la nuit lourde et opaque des héros de L'éternité n'est pas pour nous, de Patrick Delperdange aux arènes, l'invité ce soir sur France Culture de Mauvais Genre. Voilà, Physérum par Bonaventure, le titre choix de Laurent Polleret. Alors la malaventure, c'est plutôt celle des héros de Patrick Delperdange. On peut résumer à grands traits l'intrigue du roman.
Alors en fait, c'est un roman avec
de
des,
le faire,
des,
Monsieur Prolongeau.
C'est moins une intrigue que des personnages, je trouve, qui occupent le devant de la scène. Au départ, ça commence par l'agression que subit une prostituée par un jeune fils de bonne famille. Parallèlement, il y a deux héros, dont un handicapé, et qui sont dans la campagne, un peu perdus. L'un des deux se fait agresser. Ils finissent par tuer l'agresseur, ils fuient, se mêlent à ça des policiers pas très très futés qui cherchent ces gens-là. Il y a une voiture volée, il y a tous ces gens se croisent les uns les autres, et c'est une espèce de, on parlait de Simenon et de comédie humaine, en tout petit, de comédie humaine rurale qui réunit plus des portraits, je trouve, qu'une tisse, une intrigue diabolique avec un twist à la Michel Bussy, où en fait on a toute l'histoire qui se remonte à l'envers en permanence. Là, vous, c'est exactement l'inverse. C'est on les conduit et ça s'arrête sur une fin relativement ouverte, sans qu'il y ait non plus de conclusion très claire, où chacun reprend sa place. Donc c'est une espèce de vagabondage dans un monde noir avec des personnages très forts.
Oui, je n'écris pas des... comme vous venez de le dire, je n'écris pas des romans où des serial killers hyper intelligents tuent des gens les uns après les autres en leur insérant un scarabée à trois ailes sous l'ongle du pouce. Et puis on se rend... Tout ça pour, en fait, titiller l'imaginaire des policiers qui sont à sa recherche. C'est pas du tout ce genre de littérature que j'écris. Et on peut trouver ça tout à fait honorable, hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui peuvent lire ça, et puis voilà, il y a plein d'auteurs qui s'éclatent en écrivant ce genre de choses. C'est pas, encore une fois, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Mon univers est noir, j'ai envie de parler, comme vous venez de le dire, j'ai envie de parler de personnages, j'ai envie de leur donner de la chair, j'ai envie qu'on les entende vivre, qu'on les entende parler, j'ai envie qu'ils résonnent en nous. Cette résonance là, pour moi, est primordiale, en fait. Donc, cette galerie de personnages, ces personnages qui sont tous un peu des laissés pour compte, des marginaux, des nuisibles, des gens qu'on considère avec mépris, mais des gens qu'on croise tous les jours, en fait, en essayant de ne pas les voir, en essayant de les ignorer, en essayant de les éliminer de notre vie. Mais ils sont là, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains avec tout ce qui constitue l'être humain, c'est-à-dire des sentiments, des pensées, des idées, des sensations, tout ce que fait les sentiments, tout ce qui constitue l'être humain, ils sont là, ils sont couchés dans les rues, ils mendient, ils se prostituent. Mon but n'est pas, de décrire la société. Mon but est de décrire une histoire. Mais n'empêche, si je pouvais un peu attirer l'attention de quelques lecteurs sur ces gens qui sont justement ignorés, je pense que j'aurais pas travaillé en vain.
Sauf que chez vous, Patrick Delperdange, il n'y a pas de rue. on est dans les bois, on est dans les carrières, on est dans des maisons, dans des maisons riches ou plus ou moins riches, on est dans des mobilhomes, des caravanes. On n'est pas du tout dans un univers urbain, ce qui donne à cette détresse et à cette misère consubstantielle au personnage un poids, une noirceur encore plus épais.
Le fait est que la campagne exacerbe un peu les sentiments, je pense. Dans une ville, on est bombardé d'infos, on est bombardé, on est obligé de se protéger, on ne peut pas connaître la vie de tous ses voisins, par exemple. Moi, je m'intéresse à la vie de mes voisins, j'habite en ville, mais je ne peux pas m'intéresser à la vie de tout le monde non plus. Donc, mais quand vous vivez à la campagne, j'ai l'impression qu'il y a si peu de gens qui y vivent encore, qui y survivent, que vous êtes obligé de vous intéresser. Vous connaissez intimement, en fait, la vie des gens qui habitent.
C'est ce qu'on reproche parfois à la campagne, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'intérêt, mais effectivement, on connaît bien la vie des autres.
Voilà. Et donc, ce qui fait que vous êtes, il y a des liens qui se tissent, que ça soit favorable ou défavorable. Je veux dire, vous êtes partie prenante de ce milieu, et donc ça rejaillit sur vous, ce qui arrive à vos voisins. Inévitablement, ça vous touche, ça doit vous toucher. Donc voilà, j'ai l'impression que cette vie à la campagne développe un peu cet intérêt qu'on a pour les autres, parce que on est obligé, nous sommes, encore une fois, nous sommes des êtres humains. Et un être humain ne peut pas vivre seul. Il doit s'intéresser à ses semblables. Et donc, le fait de vivre à la campagne fait que ces liens, à mon avis, sont plus forts.
Élise Lépine.
Oui, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs.
Hein. Exactement.
Il y a aussi une promiscuité qui peut créer, qui peut avoir un côté abrasif dans ces campagnes qui sont les vôtres. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre processus d'écriture, c'est le plan, parce que j'ai l'impression, vous parliez de votre attachement à ces personnages très organiques, très intimes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout le genre d'auteur. Vous allez peut-être me contredire, hein, mais qui sait d'avance ce qui va se passer et comment quel va être le destin de ces personnages.
Ah non.
Nous, on est très surpris. J'ai l'impression que vous aussi, quand vous arrivez à l'issue du texte, vous êtes vous-même.
Mais c'est pas à l'issue, c'est à chaque pas. Mmh. En fait, chaque jour, je me mets au travail sans savoir exactement où je vais. Donc, je rajoute une petite pièce au puzzle que je suis en train de constituer. En fait, vous voyez, c'était comme un puzzle sans que je possède de motif, sans savoir ce que va donner le motif au bout du compte. Donc, chaque jour, je sculpte une petite pièce en espérant qu'elle va pouvoir s'insérer dans le motif qui existe déjà. C'est ce qui, comme vous venez de le dire, c'est ce qui ménage mon intérêt et ma surprise à chaque fois. Si les lecteurs, si je ne suis pas surpris parce que je suis en train de raconter moi-même, je pense qu'aucun lecteur ne va l'être non plus. Et donc, c'est ce qui donne un peu à mon avis cette espèce de tension qu'on sent en se disant mais que va-t-il donc se passer, sans que ça soit encore une fois basé sur un synopsis préétabli et sur une histoire où tous les détails ont été réglés.
Le bien prolongé.
Un de vos admirateurs sur un blog commence son papier en disant: le premier qui me parle de polar rural noir, je lui mets une baffe. comme je suis un peu intrépide comme garçon, j'ai quand même envie de courir le risque de vous dire: est-ce que c'est un polar rural noir? Et est-ce que du coup vous avez l'impression de vous rattacher à un genre dans lequel on trouverait Charles Williams et Fantasia chez les Ploux, Pierre Pelot et l'été en pente douce, toute une littérature quand même de la campagne qui existe malgré tout?
Voilà, depuis quelques années, il est clair que des écrivains français et francophones, puisque se sont mis à raconter des histoires qui se passent à la campagne. Tout ça n'a pas été décidé de commun accord. Je ne sais pour quelle raison on s'est retrouvé 3, 4, 5, peut-être une petite dizaine, à raconter des histoires dont le cadre est campagnard. Comme je viens de le dire, je ne suis pas campagnard du tout, mais la campagne m'intéresse beaucoup parce qu'il s'y passe. Et je me suis donc retrouvé face à des gens qui avaient écrit des romans qui se passaient aussi dans des milieux ruraux et campagnards. Et donc j'ai participé, par exemple, à des tables rondes, à nombreuses tables rondes dans les salons et festivals où nous échangeons l'un et l'autre le petit groupe d'écrivains qui publie des polars ruraux. C'est, à mon avis, c'est ce que voulait un peu signifier la personne qui
enthousiaste, voilà, et violent animateur.
Voilà. Qui disait: on en a un peu marre, en fait, d'entendre parler du polar rural.
Sam fit jouer son poignet. Le câble de remorquage était enroulé de telle manière qu'il était impossible de s'en libérer. Sans main valide pour desserrer ce nœud. Ce type l'avait parfaitement compris. Quant au piton d'acier, il était si bien planté dans le sol qu'il aurait fallu un tracteur pour l'en arracher. Après avoir essayé de le faire bouger, ne fût-ce que de quelques millimètres, sans aucun succès, Sam s'était assis pour réfléchir. Tendu au maximum, le câble ne lui permettait même pas de se réfugier sous l'auvent de tôle ondulée aménagée au flanc de la maison. S'il se mettait à pleuvoir, il serait trempé une fois de plus. C'était une malédiction qui le poursuivait, celle de se voir régulièrement arrosé de flotte. Cette satanée flotte, dont il avait horreur depuis l'âge de 4 ans, il avait cru se noyer le jour où son père avait décidé de lui apprendre à nager et l'avait tout bonnement balancé dans le courant noir et glacé de la Meuse. Un extrait de L'éternité n'est pas pour nous, de l'invité de mauvaise chance ce soir sur France Culture, Patrick Delperdange. Je pense que dans ce passage bref, il y a, je dirais, le schéma
général de tous vos personnages. Ce sont tous, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient physiquement ou mutilés, qu'ils soient flics ou qu'ils soient truands, ils sont tous enchaînés à un piquet la nuit quand il pleut. C'est-à-dire, on a le sentiment d'une sorte de, comme ça, de détention dans l'existence. Ils sont tous détenus par leur condition existentielle, ce soit la femme du milliardaire local, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, si ce n'est déambuler dans les pièces infinies de son manoir, que ce soit son fils alcoolique, que ce soit Lila la prostituée, sa fille Cassandre, que ce soit les deux flics, dont celui qui se masturbe devant des cassettes X, ils ont tous cette dimension d'être prisonniers d'un piquet la nuit et il pleut.
Pensez-vous être libre? Et vous connaissez-vous le piquet?
Je suis pas un personnage de Patrick Delperdange.
Grâce à Dieu. Mais connaissez-vous le piquet auquel vous êtes rattaché?
Voilà. Je le cherche depuis bien longtemps.
Donc c'est un peu ça. Je veux dire, c'est vrai que je pense que l'idée de la liberté, l'idée que nous sommes libres, l'idée que tout est permis, l'idée que nous décidons de notre sort, c'est peut-être une illusion. Je pose la question. Encore une fois, je ne donne pas de réponse. Libre à chacun de répondre à ce genre d'interrogations existentielles. En fait, on en arrive là, bien sûr que oui, parce que décrire la condition humaine. Moi, j'ai pas envie de parler du paradis. J'ai pas envie de parler. C'est pas édénique. Nous ne vivons pas dans un jardin de roses. Je veux dire, moi, je vis ici et maintenant. Je vois ce qui s'y passe. Je côtoie mes semblables et je sais que le bonheur, il n'est pas si facile à atteindre.
Élise Lépine.
Moi, j'aime beaucoup, et on le voit dans le passage qu'a lu François Angeli à l'instant, le travail que vous faites sur le rapport entre l'humanité et la bestialité. Là, Sam est traité comme un animal, il est attaché à son piquet. Je me rappelle, dans Si tous les dieux nous abandonnent, il y avait une scène, je crois que c'était des ragondins obèses dans des cages qui étaient engraissés et laissés là à mourir. Obèses. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça génial. Et vous créez des images puissantes, justement, en faisant surgir dans ces humains leur part d'animal.
Oui, mais encore une fois, je pense que nous n'avons pas quitté notre animalité. Nous venons de là. Nous croire que nous sommes plus près des dieux que plus près de la terre et des animaux, je pense que c'est encore une fois une illusion. Qui peut penser justement que l'éternité va nous être accordée?
Elle n'est pas pour nous.
Elle n'est pas pour nous, voilà. Mais non, voilà. Et les dieux, justement, nous ont abandonnés depuis longtemps, mais on les comprend. Parce que
ça, c'est intéressant. Les dieux nous abandonnent et on les comprend. Vous pouvez détailler, monsieur Delperdange.
Mais oui, parce que, je veux dire, cette espèce, cette engeance, en fait, qui est vermoulue, au bout du compte, qui est percluse de défauts, et en même temps, je l'espère, qui peut tout à coup créer la solidarité, qui peut créer la lumière, qui peut faire jaillir des étincelles. On le voit dans les situations d'urgence, par exemple, où les gens, sans réfléchir, sans même y penser une seconde, s'entraident et se jettent dans les flammes pour sauver leurs semblables, pour sauver des êtres humains. C'est ce qui, moi, me fait penser qu'au bout du compte, malgré tout ce que j'écris, malgré tout ce que je pense, bien, l'homme est bon.
Et c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup plus, finalement, d'énergie que de désespoir dans le parcours de ces êtres que la vie a assez peu gâtés, qui recèlent assez peu en eux de pépites morales, malgré l'apparition de la Vierge à la fin en guest star. C'est un livre qui est quand même, ouais, très, c'est porté, enfin, l'écriture c'est assez court, l'écriture va vite, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse tous ces gens vers leur vérité et vers un certain dépassement de même.
À se dépasser, exactement. Je pense que c'est le bon mot. Et donc, je crois qu'on est tous capables de ça, sans le savoir, et en le niant. Quand je dis, au bout du compte, moi, au fond, au très fond, je pense que l'homme est bon. Et si l'homme n'avait pas été bon, si l'homme n'était pas bon, si l'homme n'était pas solidaire, l'espèce aurait disparu depuis longtemps. L'espèce humaine continue à subsister, a réussi à se maintenir sur cette planète grâce à cette solidarité, cet intérêt qu'on a pour les autres qui fait la société et qui fait que l'être humain ne peut pas vivre seul. Un être humain solitaire n'existe pas, en fait.
Le garçon se demanda une fois de plus comment il aurait réagi s'il avait eu la chance inouïe de voir la Vierge. Il se l'était figuré des milliers de fois. Il avait d'ailleurs cru que ça arrivait. Il avait prié si fort ce soir-là qu'il en avait eu mal aux doigts, devenu blanc tellement il les serrait. Il avait entendu une voix, douce mais forte en même temps. Elle provenait du couloir. Il avait compris qu'elle l'appelait, en entendant son nom. Une lueur passait sous la porte de sa chambre. Dans l'entrebâillement, il avait aperçu une silhouette nimbée de lumière. Les voix continuaient de se faire entendre. Tremblant des pieds à la tête, Étienne était resté là à observer. S'il s'agissait de notre Sainte Mère la Vierge bien-aimée, il valait mieux la laisser décider de la suite. Il s'était senti inoncé d'une félicité ineffable. Il avait attendu en frémissant que l'apparition s'approche de lui. Mais elle demeurait immobile au fond du couloir. Il s'était alors avancé vers la silhouette auréolée de lumière sainte et il s'apprêtait à s'agenouiller devant l'apparition merveilleuse quand il avait entendu le ricanement.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, autre scène caractéristique de la vision de Patrick Delperdange. La Vierge apparaît, on est tellement ému de la voir devant nous, on s'approche à la toucher, et au moment où on la touche, eh bien, la Vierge ricane, là aussi, désespoir. Il n'y a pas que la bourgeoisie et la police qui lâche l'individu, il y a aussi la Vierge Marie.
Oui, oui, sur quoi peut-on compter? Sur quoi peut-on s'appuyer? Est-ce que nous ne sommes pas seuls? Est-ce que nous ne devons pas décider tout par nous-mêmes, en fait? Est-ce que notre destin est écrit quelque part? Est-ce qu'on peut décider de sa propre famille? Est-ce qu'on peut décider que votre mère ne l'est plus? Est-ce qu'on peut décider qu'une...
Est-ce qu'elle est l'un de vos personnages?
Voilà, merci. C'est ce que je voulais un peu. Et donc, est-ce qu'on peut aussi décider qu'une inconnue que vous rencontrez comme ça par hasard est votre mère et que vous allez lier votre destin au sien? Voilà, ce genre de questions, moi, ça m'intéresse beaucoup.
Élise Lépine.
Oui, là, vous parlez de la mère, on parle de la Vierge Marie, on parle de la femme. Moi, j'aime beaucoup vos personnages féminins. Il y avait cette femme traquée dans Si tous les dieux nous abandonnent, qui avait beaucoup de puissance, beaucoup de force. Mm-hmm. Et puis là, on a cette prostituée qui, quand même, atteint dans sa dignité l'homme qui veut la violer. Et puis ensuite, qui essaye de sauver sa fille, qui est aussi prise à partie qui est même malmenée par ces mêmes hommes. Et en fait, je trouve que, voilà, il y a une profondeur dans vos personnages féminins. Et une profondeur dans votre regard sur la femme qu'on voit finalement pas tellement dans le polar où la femme est plutôt un prétexte pour faire avancer l'intrigue. Voilà.
Voilà, mes femmes ne sont ni des vampes, ni des salopes, ni des saintes. Je pense que ce sont des femmes. Enfin, c'est celles que je connais, moi, que je fréquente, que je côtoie. Je ne côtoie pas des prostituées qui s'assoient toute la journée sur une chaise en plastique le long d'une route abandonnée. Ça, c'est une image qui m'a frappé. J'ai vu ça. Elle m'est restée en tête. Elle est restée en moi. Et je me suis certainement dit, consciemment ou inconsciemment, en voyant cette femme, en passant moi-même en voiture, en me disant, mais quelle peut être la vie de cette femme? Qu'est-ce qui l'a amenée là? Qu'est-ce qui va lui arriver? Et voilà, c'est un peu comme ça que les choses se mettent en place en moi, en fait.
Patrick Delperdange, L'éternité n'est pas pour nous. C'est aux éditions Les Arènes, dans la collection Equinox.
Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, 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 love. All because of you. In my pearl, in my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River. All because of you.
On commence avec vous, Élise, Lucas d'Andrea, au cœur de la folie.
Voilà, au cœur de la folie, aux éditions de Noël, un titre plein de promesses. Alors on va suivre aussi une femme dans ce roman, elle s'appelle Marlène, on est dans les années 70, et elle décide de quitter son mari en lui piquant dans son coffre une poignée de saphir qu'il gardait précieusement. Alors il fallait pas s'attaquer à lui parce que c'est un grand parrain de la mafia. On est dans le sud Tyrol, donc on est à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, voilà, une région montagneuse, un peu sauvage. Et puis il y a cette femme qui part en voiture avec les saphirs, et puis son homme évidemment lance à ses trousses parce qu'il est foudrage ses hommes de main mafieux, et notamment l'un d'entre eux qui est terrible et qui est réputé pour ne jamais rater un seul contrat et toujours avoir la peau des gens qu'il poursuit. Et ce qui va sauver cette femme, c'est qu'elle se plante dans le décor avec sa voiture. Elle tombe dans un ravin et puis elle est ramassée par Simon Keller, qui est un boer, c'est-à-dire un paysan des hauteurs de la montagne perdue, et qui va l'emmener dans son maso. C'est comme ça qu'on appelle les petites fermes. Alors rien à voir avec le masochisme, quoique. En tout cas, il l'emmène dans sa ferme, il la soigne, il la nourrit, il la protège, il décide de la garder un petit peu. Et puis cette femme va s'épanouir un peu dans le maso, retrouver la liberté. Mais malheureusement, il va quand même lui arriver des choses terribles, puisque ce maso est peut-être hanté. En tout cas, Simon, le boer, est hanté par des souvenirs terribles qui lui viennent de ses ancêtres. C'est une histoire de famille très longue. Et il a une porcherie dans laquelle vivent des truies et des cochons qui peut-être sont l'endroit dans lequel s'incarnent des entités ou les âmes damnées de ses fameux ancêtres. Voilà, j'en dirai pas plus, mais vous l'avez compris, il y a dans ce livre toute une dimension fantastique qui est très bien gérée par cet auteur, Lucas d'Andrea. Il n'y a rien de kitsch, hein. Moi je trouve que souvent, et particulièrement chez les auteurs italiens, l'ésotérisme, ça peut être un petit peu raté. Ben
là, et là, non, c'est, là ce c'est très réussi. Des cochons qui réincarnent les morts.
Voilà, c'est des truies quand même, il y a une truie terrifiante dans ce livre. Et puis par ailleurs, il y a aussi un aspect très, très rationnel avec cet arrière-plan mafieux qui se déploie comme ça, avec cette traque, des interrogatoires, des violence, voilà, de tout ce réseau mafieux qui se déploie derrière. Et puis cette femme qui est traquée de toutes parts par différents prédateurs, il y a évidemment une réflexion sur la folie, c'est-à-dire la schizophrénie, la psychose, etc. Comment tout ça naît, comment ça se développe dans le cerveau des différents personnages. Et puis moi j'ai trouvé ça fascinant de découvrir cette région du sud Tyrol avec les contes, les légendes, le folklore qui sont très présents dans le texte, qui sont très bien liés comme ça à tout ce grand thriller. Alors c'est parfait si on veut avoir le genre de livre qu'on ne lâche pas de toute l'après-midi au coin du feu, voilà, les pieds dans l'âtre à se chauffer et à pouvoir lâcher son livre. Lucas d'Andrea, et il y a aussi un poche chez Folio qui est un petit peu moins bien, L'essence du mal, mais qui vient de sortir et qui est quand même vraiment pas mal du tout. Du coup, je suis allée le lire, je l'avais raté. Ceux qui veulent prendre le poche ne seront pas trahis non plus par cet auteur, mais je trouve ça bien qu'il soit un peu moins bien le premier que le deuxième, parce que je crois que c'est un auteur qui progresse et c'est un auteur dont j'ai hâte de lire le troisième roman.
On va donc suivre, on continue avec vous, Hubert Prolongeau, qui ne s'épanouit dans le maso. Hugues Pagan, qu'on salue.
Voilà,
l'immense Hugues Pagan, mauvaise nouvelle du front chez Rivage Noir.
Pagan, qui n'est pas un auteur qui progresse, puisqu'un auteur qui est déjà quand même très très haut. Là, c'est un livre qui est intéressant. Ce sont des nouvelles qu'il a écrites étalées sur 30 ans. Et quand on le lit, on sent un Pagan encore plus en liberté que dans ses romans. Donc, il est détaché de l'intrigue, qui est détaché. Donc, il invente tout. Il y a Jésus qui débarque au commissariat. On arrête le Père Noël. Il y a des néologismes, des jeux de mots qui parfois frôlent le vaseux. Il y a une espèce de liberté qui est assez passionnante et qui fait de ce recueil une espèce de sorte d'atelier de Pagan, où on voit aussi des tas de perspectives qu'aurait pu prendre son œuvre, des tas de pistes qu'il a ouvertes, pas forcément suite certaines parce que elles aboutissent à des cul-de-sac. Il y a une ou deux nouvelles qui font une page et demie, qui sont moins intéressantes, mais il y a un côté foisonnant là-dedans. Et il y a bien sûr, pour ceux qui aiment Pagan, toujours ces espèces de fulgurances, cet univers totalement noir, totalement poisseux.
Et aussi l'éternité n'est pas pour eux, je parle des personnages.
Non, elle n'est pas des masses, et les dieux les ont plutôt pas mal abandonnés aussi. Mais voilà, c'est un livre dans lequel il y a à boire, à manger, il faut puiser, et qui fait un peu le même effet que par rapport à la Sixtine, quand on ouvre un carnet de croquis. Ben voilà, c'est un peu...
Avec un très beau texte sur Ostende, Patrick Delperdange.
Oui.
où les flics français viennent arrêter quelqu'un. Alors là, il y a une espèce de grande rêverie sur Ostende, qui est un lieu charismatique pour les amateurs de mélancolie noire, non, Ostende ?
No comment.
No comment.
Il y avait eu un recueil qui s'appelait Ostende Noir, qui était justement un recueil de nouvelles autour d'Ostende.
On continue. James Crumley, alors voilà.
James Crumley, je voudrais parler, voilà, je dis un mot de les sorties d'automne de la maison Gallmeister, hein, qui sont très belles souvent. Parfois, les maisons d'édition de Polar hibernent un peu à l'automne. Hein, je trouve
comme
voilà, on s'est passé comme les ours. Et là, ben non, c'est
l'ours
la danse de l'ours de James Crumley. Alors, ce sont des rééditions qui sortent hein, là chez Gallmeister. Alors, James Crumley, ben, on le présente plus, hein, parce qu'il a déjà été publié plusieurs fois. Ce sont des retraductions. J'avais parlé de Fausse Piste ici en 2016. Et puis, la danse de l'ours qui met toujours en scène son enquêteur Milo Dragovic, qui est un espèce d'enquêteur fauché qui attend de toucher un héritage à 52 ans, qui est cocaïnomane, qui a plein d'ex-femmes à nourrir, qui décide de se ranger des voitures là et de dire arrête de faire n'importe quoi, parce qu'il lui était quand même arrivé des vertes et des pas mûres dans le premier, et puis qui finalement est rattrapé par, bah, je ne sais quoi, sa malédiction de toujours attirer la poisse, et qui se retrouve à partir d'une enquête toute banale, toute simple, avec des explosions de voitures, des trafics d'armes, trafics de drogue, baston, etc. Donc on est vraiment dans du texte rock'n'roll, irrévérencieux, que j'adore, hein, grand écrivain James Crumley, décédé en 2008, grand écrivain du Montana, qu'on aime beaucoup. Et puis je voudrais dire aussi, chez Gallmeister, toujours il y a la traduction, la réédition de deux livres de John Volker, qu'on connaît mieux sous son pseudonyme Robert Travers pour Autopsie d'un meurtre, un grand roman. Et puis il publie Itinéraire d'un pêcheur à la mouche et Testament d'un pêcheur à la mouche, deux textes de 1960 et 1964 qui sont très beaux. On fait un pas de côté par rapport au polar et on est au bord de l'eau. Ce sont des réflexions philosophiques sur qu'est-ce que la pêche, qu'est-ce que cet art de vivre, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que sont les autres. Voilà, donc moi j'adore ça. C'est du nature writing et c'est pas réservé aux pêcheurs.
Voilà, Mick Pagan d'ailleurs. James Crumley furent les invités de Mauvais Genre dans les années écoulées à redécouvrir les émissions sur le site de France Culture. On termine avec quelqu'un qu'on a aussi reçu, Chantal Montelier, mais là, ce sont des nouvelles.
Voilà, Chantal Montelier, donc, qu'il faut un peu présenter. C'est une dessinatrice de BD politique. Elle a écrit très à gauche.
Du prix Artemisia.
Exactement, prix décerné à une femme bédéaste, ce mot horrible. Elle a écrit dans l'Humanité, dans
femme
Révolution, dans Politisme, bédéaste, juste. Femme est un mot admirable. Dans Charlie Mansuel, dans des BD dystopiques, politiques. C'est aussi une grande gueule, vous avez pu le constater
C'est ce qu'elle ne mâche pas ses mots.
Voilà, en fait. Un mauvais genre. Et elle sort un recueil qui s'appelle 68 art, 68.art, A-R-T, jeu de mots. Et c'est 10 nouvelles qui sont noires, parfois très noires, assez révoltées, assez gueulardes, donc qui lui ressemblent, portées par une rage qui rejoint celle qui va peut-être s'exprimer demain dans les rues. À côté, elle a aussi détourné de manière très drôle 32 slogans et affiches célèbres de mai 68, dont elle a fait des espèces d'éloges du capitalisme en les y adaptant. Donc l'ensemble donne un livre qui a des hauts et des bas, mais qui a une vraie énergie, qui a une vraie vie, et que je pense, oui, demain les Gilets jaunes pourront se repasser les uns aux autres et y apprendre pas mal de choses.
Voilà, merci donc Hubert, merci Lise. Patrick Delperdange, une lecture récente comme ça qui vous a marqué ?
Alors il faut lire Les raisins de la colère de Steinbeck.
C'est récent.
C'est pas récent, vraiment c'est un coup de poing et ça résonne. Encore une fois, parlons de résonance avec l'époque actuelle, des gens chassés de chez eux, qui
déracinés,
voilà, qui subissent et qui en même temps gardent espoir et ont une solidarité extraordinaire.
Très bien, ben voilà, des lectures pour le futur et on termine cette émission bien évidemment avec le maître Christophe Beer.
Publié par la Fédération française des artistes prestidigitateurs, « L'enfant qui voulait être magicien » est l'autobiographie des 30 premières années de Maurice Saltano. Il s'ouvre dans la soumission d'une France occupée. Le petit garçon s'évade de la veulerie des adultes grâce à la lecture des bandes dessinées et rêve sur Mandrake qui triomphait de tout par un geste magique. Un rudimentaire tour de cartes enseigné par son grand-père pique sa curiosité. Il invente ses premiers numéros dans le grenier familial et se planque dans les coulisses du théâtre municipal pour observer les saltimbanques, à l'affût du moindre secret dévoilé. Magicien amateur en 1944, il émerveille le public des kermesses avec des manipulations de désaccoudre. Après la Libération, à 16 ans, Saltano devient le plus jeune illusionniste de France, assurant l'attraction des premières parties des cinémas de l'Isère. Pour se rémunérer, il faut descendre dans la salle, vendre une photo ou un programme souvenir, apprentissage peu glorieux, marqué par d'interminables journées de solitude dans des chambres d'auberge. vient l'insouciance joyeuse d'une troupe itinérante. Il y teste le numéro spectaculaire de « L'homme invulnérable ». En 1953, une jeune comédienne, Monique Dorian, accepte d'être sa partenaire dans le style pin-up, maillot décolleté, cuisses nues, jambes teintées avec un maquillage à l'eau pour d'illusoires bas de soie. Il l'enferme dans une caisse, la transperce horizontalement de 12 sabres de cavalerie et d'un impressionnant pieu vertical qui n'altère en rien le sourire et le charme de sa prisonnière. Un duo espiègle est né, à la ville comme à la scène, se produisant jusqu'à l'orée des années 60. Le texte de Saltano est aussi fulgurant que l'exécution de ses tours. Comme par magie, en 200 pages au chapitre bref, il sort de ses manches un univers suranné, avec ses concours internationaux d'illusionnistes, la télévision naissante, les roulottes du cirque Medrano, les tournées de l'Olympia de Tel Aviv à l'Alcazar de Marseille, et fait surgir d'étranges figures. Le provocateur Jean Boulet, qui l'héberge dans son appartement parisien aux pièces noires et rouges. Kes Clark, manipulateur virtuose et secret. L'orgueilleux Yvon Iva, un fils de gendarme né infirme, qui prenait sa revanche dans des numéros de fakirisme au masochisme éprouvant. Le calculateur Dagbert, mémorisant les effarants calculs inscrits sur son tableau noir durant 20 minutes. Saltano s'efface derrière ses portraits insolites et tendres, mais laisse sourdre l'inquiétude, achevant son récit par l'inéluctable disparition des attractions sur scène au profit du seul culte de la vedette. Quittant la lumière, il sera dès lors historien de la magie et agent artistique, de quoi remplir un second volume.
Merci Christophe Beer, merci Patrick Delperdange.
Merci à vous.
D'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre sur France Culture. Prochain livre ?
Prochain livre dans le courant de l'année prochaine, des romans jeunesse.
Jeunesse, noir, voilà. Jeunesse.
Jeunesse fantasy.
Fantasy, un peu voilà. De bande dessinée, non ?
Pas de bande dessinée pour l'instant en vue.
Très bien, ben on vous garde à l'œil.
D'accord, merci. Et moi de même.
Merci à vous. Patrick Delperdange donc publie « L'éternité n'est pas pour nous ». C'est aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Je signale également son précédent roman en série noire, désormais en folio policier. Si tous les dieux nous abandonnent, Hugues Pagan, qu'on resalue. Mauvaise nouvelle du front, c'est chez Rivage Noir, la danse de l'ours de James Crumley chez Gallmeister. Et au cœur de la folie de Lucas D'Andrea, c'est son édition de Noël dans la collection Sueur Froide. Et Chantal Montelier, c'est aux éditions Monsieur Prodongeau.
Helvétius.
Merci bien à toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent Polleret, Philippe Mercher, Céline Boutata, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesne, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Vire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain pour un Mauvais Genre Italia Rabbiata. Nous y parlerons des récentes publications DVD, notamment le somptueux coffret 1900 Bertolucci chez Whiteside et les camarades de Mario Monicelli. Et d'ici là, bonne nuit à tous.